Bonjour, c'est l'heure du documentaire dans une semaine consacrée aux femmes. En Martinique, Des petits morceaux de femmes est un documentaire qui met au centre des femmes noires, interrogeant leur corps autant que leur histoire, passant par les locaux de l'Union des femmes de la Martinique, quand lasse ou incapable d'être plus longtemps la gardienne du foyer, elles ont besoin d'aide pour rester ou partir. En tout cas pour penser ce qui, dans leur monde, inscrit une violence inacceptable. Nous avons rendez-vous avec ces femmes que les documentaristes d'aujourd'hui décrivent ainsi. La femme martiniquaise est souvent née dans les cales, c'est-à-dire dans la souffrance de voir son corps pris par le tout venant. Maître violeur, esclave étalon, nègre en manque. Ce corps à disposition de l'homme a intégré la violence comme une normalité dans la vie des femmes. Après 3 siècles ainsi dépossédées, le sexe des femmes s'est verrouillé. Tous les jours, la psychothérapeute Monique Parfaite voit défiler des femmes qui portent en elles la marque du plaisir honteux, de la jouissance refoulée, de l'accouplement historiquement impossible.
Donc on va se toucher, toucher le visage, toucher vraiment de façon très délicate, hein, le corps.
Ah, bah déjà je vois une dame assez âgée, je pense qu'elle a dû faire ses petites courses ce matin. Là, c'est très coquette, mais bon, avec un âge assez avancé.
On va partir de la tête. Donc au niveau de la tête, on va peut-être se caresser les cheveux.
Bon, déjà, les vrais cheveux, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Tout le monde a une perruque sur la tête, sinon, celles qui ont de l'ox.
Ensuite, on va se caresser les yeux, en les fermant, bien sûr.
Ces femmes fortes, minces, grandes, petites, machin.
Ensuite, on va se caresser les joues, comme si on caressait un enfant avec... On lui dit, t'inquiète pas.
Vous avez cette négresse qui peut être très forte, mais très jolie, avec des cheveux naturels aussi. Bon, ça peut être des cheveux qu'elle a achetés dans le magasin aussi.
Ensuite, cette bouche.
Il y a beaucoup de métissage, énormément de métissage, de plus en plus dans le pays, quoi.
Une magnifique bouche qui a embrassé, qui a fait pas mal d'autres choses aussi.
Il y en a qui ont la peau, très, une belle peau de négresse, bien brillante.
On va passer à la poitrine.
Celle qui s'en occupe, ça peut être très, très joli.
On peut vous poser la question, aussi. Est-ce qu'on aurait bien aimé la voir plus grosse, plus petite, plus mobdée, enfin, qu'importe. Hein.
On est Chabine, on est Milatresse, on est Chabine Filmango. On est Chabine Kalazaza.
Et puis on va passer aux fesses.
Chabine. Enchivée jaune.
Et puis on va passer à l'entrejambe. Ça, c'est important. L'entrejambe.
Vraiment, mon type.
On descend délicatement.
La négresse, la belle négresse. Bien avec le nez pâté, des lèvres pulpeuses, une peau noire brillante. Quoi.
Et puis on remonte doucement. Doucement. On essaye de positionner le bassin. Les épaules. Et en dernier, la nuque. Vos impressions, mesdames.
Martinique, des petits morceaux de femmes. Aujourd'hui, midi est déjà haut dans le ciel de Fort-de-France et les femmes profitent de la mi-journée pour flâner, prendre le temps de ceci, de cela, dans cette rue piétonne qui se jette sur le front de mer. Vu de l'extérieur, un corps de femme, ça se remarque, ça se fait siffler, ça se discute. En Martinique, où les peaux touchent l'air et caressent le soleil, les corps se voient un peu plus qu'à Lille ou à Moscou en plein hiver. Vu de l'extérieur, ce corps de femme porte la garantie du foyer, le respect, et une admiration qui frôle la vénération. On dit de la femme martiniquaise qu'elle est poteau mitant, c'est-à-dire un poteau qui tient debout les murs de la maison des faux-semblants et des espoirs. Vécue de l'intérieur, la réalité des femmes outre-mer est parfois autre, comme partout ailleurs certainement.
Maëva est effeuilleuse. Elle connaît l'art de mettre un corps de femme à nu. Monique Parfaite est sexothérapeute. Erita Bonheur dirige l'Union des femmes de Martinique. Toutes les trois, à leur manière, accueillent des femmes entre leurs murs et les aident à reconquérir, morceau par morceau, une féminité négligée, parfois même oubliée d'autrefois, bafouée. C'est l'occasion pour nous d'écouter des corps nous dire comment ils portent en eux l'esprit et l'histoire des femmes martiniquaises.
On va essayer de faire des petits exercices de respiration profonde C'est-à-dire qu'on va apprendre à respirer avec le ventre, parce que souvent on respire avec le nez. Et quand on respirera, on va se poser une question. Qui suis-je réellement? Est-ce que je me connais? C'est-à-dire qu'on va essayer de ressentir tous les membres de notre corps de façon à expulser tout ce qu'on n'aime pas. On récupère tout ce qui n'est pas bon et on expulse. D'accord? Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, on bloque. 1, 2, 3, 4, on expulse.
Alors, à partir de la trentaine, j'ai oublié, peut-être 35 ans, j'ai oublié. Je me suis oubliée, moi, en tant que femme, parce que j'avais besoin de me réaliser professionnellement d'abord. Et puis ensuite, voilà quoi. Et à partir, je crois que beaucoup de femmes redeviennent femmes aux environs des 50 ans, ont envie de redevenir femmes aux alentours de 45-48 ans. On oublie aussi de se passer de la crème sur le corps, on oublie de se maquiller, on oublie... Il y a des toutes petites choses qui font que ça nous rend femme, simplement. Se maquiller, prendre soin de ses cheveux, lisser ses cheveux, se regarder, s'enlever les petits points qui sont disgracieux, aller chez l'esthéticienne, enfin, et s'aimer, quoi, en fin de compte. Et moi, c'est vrai que maintenant, je me suis dit que je devais apprendre à me consacrer à moi. Penser à moi d'abord. À moi.
Vous dites, Monique Parfaite, que le sexe fait partie du corps. Est-ce que la femme martiniquaise le sait?
Elle le sait, mais il faut lui faire bien comprendre que le sexe est là, il faut s'en approprier, il faut d'abord le connaître avant de pouvoir le partager avec les autres, et c'est là essentiellement qu'il y a un petit problème.
Alors pourquoi ça semble si difficile de parler du sexe de la femme?
Non, mais si c'est très tabou, c'est par rapport au carcan de la religion et de l'éducation. Le sexe, il fallait pas en parler. Maintenant, avec... la libération des mœurs, c'est beaucoup plus facile. Les parents vont acheter des livres pour les enfants, bon. Mais il y en a quand même une majorité qui elles sont pudiques, très pudiques, même celles qui sont déjà mariées, hein. Bon, elles se couvrent, elles se cachent, bon. Et souvent, les hommes antillais, ils aiment bien. Ils disent, ah, ma femme n'est pas très portée sur le sexe, alors ça les arrange, hein, pour qu'ils puissent courir à droite à gauche.
Pourquoi, Monique Parfaite, cette prise de conscience se fait seulement maintenant, récemment? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le sexe de la femme soit à ce point verrouillé?
Il faut revenir un peu dans le passé, où les femmes esclaves dans le bateau ont conservé au fond d'elles la honte. Une honte qui ne les autorise pas à se lâcher totalement. Parce que les maîtres avaient tout pouvoir sur elles, leur faisaient l'amour devant les autres esclaves, et elles ne pouvaient rien dire. Donc, en quelque part, dans les gènes, dans les traces mnésiques, il y a quelque chose qui fait que le blocage est là. Et ensuite vient l'éducation. La mère ne peut pas parler ouvertement du sexe parce que c'est tabou. Parce qu'il y a eu trop de souffrance par rapport à cela. Pourquoi je vais parler de ça? C'est de l'interdit. Ça va m'envoyer à ce que je sois mal jugée. Donc, je préfère me taire. Alors, y a même des gens, hein, jusqu'à présent, qui vont au mariage sans même se découvrir. Mais c'est affreux. Parce que si finalement... On découvre quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, hein, ben c'est le divorce assuré ou le sacrifice assuré, parce qu'il y en a certaines par rapport à ça, par rapport au carcan de la religion, au carcan de l'éducation, hein, ben elles se ferment. Elle se ferme, elle n'ose pas. La notion du plaisir est occultée. Je n'ai pas le droit d'avoir du plaisir parce que je suppose qu'au moment où les maîtres étaient en train d'accomplir leur acte odieux, il y a eu certainement des femmes qui ont eu du plaisir, mais elles ont étouffé ce plaisir de peur de ne pas être après rejetées complètement par la communauté. Alors cette marque est restée, ce qui fait que au niveau du couple, il y a des couples, des femmes qui acceptent de faire leur devoir en occultant totalement cette notion de plaisir. C'est « je fais l'amour pour pouvoir procréer ». C'est fait pour procréer, pas pour prendre du plaisir. Parce que si j'essaie de prendre du plaisir, mon mari, le mari va demander, le partenaire, je préfère dire, bon, « mais qui ça qui arrive au rang ?» Ça qui arrive au chaud, ou pas au trop chaud, aux femmes chaudes. Voilà.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
Oui, oui. Chaud.
Tu es une femme chaude.
Oui, 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 voilà. Donc, pour éviter cela, elle préfère encore étouffer ce désir, accepter à la limite que l'homme soit éjaculateur précoce et ne rien dire. Et elles en souffrent.
J'aimerais savoir à quoi a servi le corps de ta mère, de ta grand-mère ou de tes tantes, de ces aînés qui t'ont précédé. Est-ce que ça a été un corps pour aimer, un corps pour jouir, un corps pour subir, un corps pour l'autre, un corps pour la société, un corps pour travailler? C'était un corps qui servait à quoi?
Avant tout, je veux parler de ma grand-mère qui, elle, a eu un corps qui s'est très rapidement effacé. Ce corps a offert un grand nombre d'enfants. Déjà, premièrement, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas la contraception. Il y avait des enfants qui se suivaient. Elle en a eu quand même 9. De mon vécu avec elle, jamais je ne l'ai vue s'approprier son corps en tant que femme. Je l'ai toujours vue, c'est peut-être malheureux de dire ça, mais en tant que femme soumise, femme travailleuse et femme d'eau dans la vie, que femme, femme.
Que vous raconte-t-on au sein de ce cabinet? Que disent les femmes sur leur plaisir? Le prennent-elles?
Il y a des femmes qui viennent parce qu'elles ne sentent rien. Elles ne sentent rien. Il y en a qui viennent parce que j'ai du désir, mais j'arrive pas à l'orgasme. Pourquoi? Quand on va au fond des choses, on constate que ce sont des femmes qui n'ont pas été explorées totalement par les caresses, la douceur et tout ça. Au contraire, ils ont un mari plutôt grosso modo, un mari qui ne sait pas y faire non plus. Hein. Bon, comme tout, la danse et tout, il faut apprendre. Le sexe, ça s'apprend. La manière de faire. Dans ma technique, j'ai exploré la danse traditionnelle, Kalanda, Biguin, pour permettre aux hommes et aux femmes de lâcher prise, de se laisser aller, de permettre à leur corps de se tortiller, pour trémousser, pour se laisser vivre, sans penser à autre chose que la danse de la tête, la musique. Donc avec cette musique traditionnelle, ils arrivent à lâcher prise. Et dans les salles de quand ils vont danser, c'est là qu'ils prennent le plaisir. Parce qu'ils ont envie de sentir le désir de l'autre. Ils ont envie de sentir l'érection de l'autre. Ils ont envie de sentir que le corps vibre. Mais même si le corps vibre, elles n'osent pas en parler, elles n'osent pas le dire. Parce que ce serait mal vu.
Que quand vous allez dans des rues, dans quelque part, et que vous voyez comment elles sont habillées, ces femmes, comment elles sont jolies, comment il y en a aussi qui sont moins jolies, mais comment en majorité elles sont jolies, je pense qu'il y a de quoi vous rendre presque fou, je dirais. Voilà, une femme martinique, c'est considéré, genre, là où monter, par exemple, dans la nature, ou partir en bas bois, et pour admirer tout ça, la nature peut porter, toute fleur, toute verdure là, tout petit bruit vent, toute petite chanson en vent, là-bas. Là. Mais là, quand on a un enfant martiniquais dans la ria, c'est pratiquement même bail là. Ouais. Il a marché, il a chanté. Quand c'est une espèce de mouvement, un mouvement qui vent qui a soufflé, on vent qui a soufflé en antimorceau tout le corps, qui a une anti-antilation comme ça. Eh bien, l'aura qu'a dans la femme martiniquaise, c'est pratiquement même là et là. Et je comprends pourquoi que les hommes sont charmés et qu'ils n'arrivent pas à... Ils perdent la tête, voilà.
C'est comme un bois, c'est comme une forêt. Ça a des couleurs.
Ah oui, mais c'est exactement ça. C'est plein de couleurs, c'est plein de mouvements, tous les mouvements avec le vent et toutes les chansons, les frottements des arbres et tout. Vous avez l'impression, en regardant une femme martiniquaise, de voir tout ça, quoi. De voir l'intérieur d'une forêt, quoi. Imagine-toi que toutes ces femmes passent dans la rue et que nous, les hommes, on a la tête baissée, on ne les regarde pas. Caillou de Kaïdi. Le Kaïdi n'a pas même existé. Si on les regarde, c'est parce qu'elles ont, elles sont belles, elles sont jolies, elles ont des formes, elles ont... Moi, je ne sais pas, si tu vas choisir un bijou ou un truc comme ça, tu vas choisir quelque chose qui te plaît, qui est beau. Et si on appelle belle, c'est parce qu'on regarde. Voilà. Regarde cette femme à l'intérieur avec cette jolie jupe-là. Regarde. C'est en chabine, mais... Ouais, les gens comme correspondent et puis la poille, tu vois.
C'est une femme plutôt voilà. Longue, plutôt mince, avec des sandales plates,
oui.
Et une jupe de toutes les couleurs,
voilà.
Les cheveux tirés en arrière comme un gros chignon et la peau très claire.
Oui, oui, oui.
C'est de cette femme-là dont tu parles.
Oui, voilà, exactement. Mais je la
c'est
trouve...
celle-là même que tu regardes avec convoitise. Hein?
Non, je ne la regarde pas avec convoitise. Je la trouve jolie. Je trouve que la sur elle correspond avec un peu la couleur de sa peau. Quoi. Ça fait tout un seul mouvement, tu vois.
Ma mère a subi, c'est-à-dire qu'elle a eu un corps non pas pour elle, mais d'abord pour l'autre, d'abord pour nous, et avec tout ce que ça a amené comme blessure, comme choc, comme... C'est vrai que quand je regarde son corps, j'ai cette impression en tout cas, qu'elle n'a pas eu un corps pour elle d'abord, elle a eu un corps pour les autres. Ma mère, si je peux dire cela... Elle a oublié d'être une femme noire fière d'elle. Elle a d'abord pensé à avoir un reflet qui n'était pas celui de... C'était pas le nôtre. Je crois que ça... On vit un déchirement, en fait, en compte. On vit un déchirement parce qu'on n'est pas forcément soi-même, parce qu'on cherche à ressembler à l'autre, qui n'est pas... Je parle surtout de l'Européen. Je crois que, malheureusement... Beaucoup de femmes cherchent à trop ressembler à des Européennes et oublient d'être femme noire, fière de son corps, de ses cheveux, de ses pieds, qui n'ont pas des ongles blancs, mais ce sont nos pieds. Voilà.
Ou belle, ou plus belle qui tout ça qui belle, aïe, pas plus belle qui vous.
C'est au cœur de Fort-de-France, dans une rue faite au shopping, aux dragues douces et aux conversations, que se situe l'Union des femmes, une maison où l'on vient sans rendez-vous, toujours sans homme, où l'on accoste lorsqu'on n'a plus la foi, plus de droits et de paix dans son foyer. Raconter ses affaires, déballer ses deux sous-salles devant des étrangères, ce n'est pas très martiniquais. Ici, en Martinique, on préfère parler des autres plutôt que de parler de soi. On s'habitue vite à faire comme si la beauté extérieure suffisait à maquiller les bleus, comme si pas ni problème, aucune galère, aucune raison valable de dire « gaffe, mon corps est à moi ».
La roue des mœurs tourne. En 2011, 4300 femmes sont venues à l'Union des femmes pour demander de l'aide. Elles n'ont plus honte ou peur comme autrefois de le faire. En fabriquant cette émission dédiée au corps des femmes, nous avons éprouvé le besoin d'effleurer ces femmes au cœur en morceaux. Nous les avons croisées à l'Union des femmes. Nous avons aussi rencontré celles qui les écoutent, les regardent et les aident à tenir debout. Rita Bonheur, à la tête de l'Union.
Bah ici, c'est d'abord une écoute, sans jugement. Je pense que c'est la première chose que les femmes viennent chercher. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours facile pour les femmes de parler, et de parler librement, et de parler aussi sans qu'on les juge, sans piternel, Mais ça encore fait là toujours, c'est-à-dire depuis le temps que tu es comme ça. Bon, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es encore là? Pourquoi tu n'es pas parti? Et malgré beaucoup de sensibilisation et tout, il y a encore beaucoup de personnes. Il y a encore cette réaction chez les gens dans la population, parce que tout simplement on juge à partir de sa rationalité de personne extérieure au problème, voilà, et par méconnaissance aussi de tout ce qu'est le cycle de la violence. Donc la première chose qu'elles viennent chercher, c'est ça, c'est une aide, une écoute sans jugement. Bon, elles viennent bien entendu aussi pour qu'on les aide, hein, donc qu'on les aide selon les cas à se sortir de toute façon de leur lieu de souffrance. Elles viennent pour qu'on les aide à rédiger des documents, à avoir contact avec une avocate. Elles ont aussi souvent envie qu'on les aide psychologiquement, parce que c'est une épreuve à surmonter, hein. Donc, on a les cas aussi les plus importants où quelquefois ça peut être les aider à partir. Quand c'est trop difficile, quand c'est trop dangereux ici, ça peut être aussi ça, les aider à partir de Martinique.
Vous parliez de lieu de souffrance. Quel est le principal lieu de souffrance pour la femme martiniquaise?
C'est le couple, hein. Plus ou moins modulé, on va dire, puisque ça peut être le couple en cours, et ça peut être aussi le couple terminé, mais il y a encore des problèmes, c'est-à-dire que les hommes n'acceptent pas que la femme parte. Il y a eu des problèmes, ça ne va pas, la femme décide de partir et les hommes n'acceptent pas que la femme parte. Donc même en étant ex-conjoint ou ex-concubin ou ex-mari, eh bien il continue la violence, il continue sous toutes ses formes. Et d'ailleurs, les dernières femmes qu'on a eues qui ont été tuées, c'était des femmes qui étaient déjà séparées de leur conjoint.
Est-ce qu'on peut chiffrer ça?
En 10 ans, nous avons eu 15 femmes qui ont été tuées en Martinique. C'est beaucoup pour ce petit pays, hein, et quelquefois toujours dans des conditions atroces.
7h30 ce matin donc, près de la mairie de Fort-de-France, un homme qui ne supporte pas apparemment la séparation tente de tuer son ex-compagne en la brûlant dans sa voiture. Ce soir, la jeune femme de 28 ans, employée à la mairie de la ville, est dans un état critique. Elle a été transportée d'urgence en France vers un centre hospitalier. Si elle a pu être prise en charge assez rapidement par les secours, c'est grâce à l'intervention d'un témoin qui a fait preuve d'un courage extraordinaire. Reportage Alain Petit et William Zébina.
J'ai vu la dame penchée par la fenêtre de sa voiture. Et j'ai juste eu le temps de voir quelqu'un qui a mis le feu et qui est parti. Donc le temps que la dame se débatte, tout ça, j'ai pas réfléchi, j'ai cherché à l'éteindre.
Roberto Mariello, qui a tenté d'immoler par le feu Sandra Cadet-Petit lundi dernier, est mis en examen pour tentative d'assassinat. Ce soir, il est en prison. L'Union des femmes et les collègues de la victime, qui est toujours hospitalisée à Lille, bien sûr, lui ont manifesté leur soutien aujourd'hui dans les rues de Fort-de-France. Franck Zozor, Thierry Porchel.
En fin de matinée, l'agresseur Roberto Mariello, c'est son nom, a été mis en examen pour tentative d'assassinat puis écroué à la prison de Ducos. Selon le parquet, il ne regrette rien de son geste.
Et cet après-midi, décidément, à Fort-de-France, un homme armé d'un couteau a poursuivi sa petite amie devant des spectateurs ébahis. Il a finalement été maîtrisé par un passant courageux, lui, puis dirigé vers l'hôpital de la Médard pour y recevoir un calmant. La victime, elle a pris la fuite sans, pour l'instant, porter plainte.
Tu disais que j'étais celle qui partagerait ta vie. Tu disais que j'étais belle, le suis-je encore aujourd'hui? J'ai tellement souhaité faire ma vie à tes côtés. Je n'ai pas cessé de prier.
Comment? Oui, pour amputer les couteaux.
Oui, ça s'est déjà fait.
Mm-hmm. Nous, on est en train de faire un documentaire sur les femmes en Martinique. Et on aurait bien aimé avoir un petit peu votre expérience, savoir comment ça se passe, la violence pour vous.
Ce que je peux dire, c'est que la violence en ce moment, c'est pas facile à gérer tout ça, parce que moi j'ai un enfant de 2 ans et cette personne-là, je pensais qu'il était le bienvenu, je pensais que c'était le premier, qu'elle tout se passait bien. Et cette personne-là, ben, elle m'harcelait, elle me faisait des menaces et ça se passait pas trop bien. Surtout quand je vis toute seule avec mon fils à domicile. Et c'est que moi, je pense qu'une femme, elle doit avoir une première place. Parce que c'est comme une maman et que les hommes de maintenant, ils savent pas ce qu'ils veulent.
Alors vous dites que les hommes sont différents, sont violents. Pourquoi cette violence chez les hommes?
Parce que déjà, une part, ils boivent beaucoup. Et après, ben, y a n'importe quoi qui passe dans leur tête. Et il y a la jalousie aussi. Voilà. Je me suis sentie en danger parce que le fait que cette personne-là venait chez moi au début. Et après, comme cette personne buvait beaucoup, et il fumait aussi, il se droguait. Alors, j'avais pas encore vu que cette personne-là était comme ça. C'est après un certain nombre d'années que j'ai vu que la façon qu'il se comportait avec moi, c'était pas du tout ce que j'attendais de lui. Parce que, comme j'ai un enfant avec lui, il pensait qu'il avait trouvé la poule aux œufs d'or et que tout ce que je devais, tout ce qu'il me disait que je devais dire, oui. Mais j'ai dit non, que ça s'arrête là et que je ne veux plus avoir affaire avec cette personne.
Vous avez quel âge?
Moi, j'ai 31 ans.
Et votre enfant?
Il a 2 ans et 3 mois.
Vous vous sentez comment au fond?
Là, ben, je me sens angoissée, terrorisée et puis peur de le rencontrer dans la rue et que il puisse me menacer, m'harceler, m'interpeller pour que je puisse écouter ce qu'il a à me dire. Voilà.
La première fois qu'il a été violent avec vous, comment avez-vous réagi?
La première fois, c'est que le fait que j'étais chez lui, il m'avait hébergé chez lui un moment. Je suis restée avec lui et puis j'attendais un enfant, justement, l'enfant qui a 2 ans. Comme je ne m'attendais pas à sa réaction, j'étais obligée de me mettre dans la chambre, enfermée. Je n'ai pas voulu sortir de sa maison. Et puis, c'est à ce moment-là que ça a dégénéré parce qu'il a cassé la porte. Il a pris un manche de balai, tout ça. Et puis, il a commencé à... Peut-être parce qu'il avait déjà consommé beaucoup. Et puis, voilà, quoi. J'ai été obligée d'aller voir mon psychologue. Et puis mon psychologue a fait le nécessaire pour que je puisse aller dans une maison de repos, à Scola. Et cette personne m'a retrouvée toujours, malgré que j'étais en train de me reposer. Et après, quand mon fils l'a eu, quand j'ai eu 8 mois, j'étais obligée de passer par mon psychologue parce que ça n'allait pas du tout. Que cette personne-là voulait que je lui ramène de l'argent pour faire des courses et tout comme ça, pour subvenir à ses besoins aussi.
Un homme, c'est pas des hommes. Comment vous les voyez, les hommes de chez vous? Comment vous les voyez maintenant?
Les hommes à présent,
Bonheur, est-ce qu'on peut se permettre de dresser un portrait de la femme martiniquaise en couple, dans son couple, avec son homme?
Oula. Je ne sais pas s'il y a un portrait type, mais ce que je peux dire, c'est que on est dans une société de domination masculine, comme dans beaucoup de, enfin comme partout ailleurs, qui peut-être est aggravée par notre histoire. L'histoire de l'esclavage et donc une histoire violente, histoire qui se, qui se reflète d'ailleurs dans l'éducation de nos enfants au niveau de chez nous, une éducation qui est quand même très répressive, toujours jusqu'à maintenant, très répressive, très coercitive, et donc qui ne peut pas rester sans conséquences sur le devenir des adultes, que ce soit des hommes ou des femmes. En tant qu'esclave, ben, on a reçu des coups, on a intégré ce type de rapport et on a accepté aussi cette forme de violence, bon, même si ce n'était pas avec bon cœur, mais on l'a quand même accepté, on l'a subi en tout cas. Et donc je crois que tant en termes d'auteur qu'en termes de victime, enfin, c'est quelque chose qui joue dans notre inconscient. On le voit dans d'autres domaines, par exemple l'acceptation de la douleur physique par exemple. Moi je crois que c'est quelque chose qui est très ancré chez nous, en tout cas chez les personnes d'un certain âge, d'accepter la douleur, bon, de ne pas se plaindre, hein, parce que bon, on doit souffrir, ça fait partie de la vie, et surtout de la vie des femmes. Alors bon, en enfantant, mais aussi dans la maladie, etc. Et puis bon, il y a des conditions aussi objectives, hein. Le contexte économique dans lequel nous vivons, avec une forte pression, ben, on sait bien que les femmes sont majoritairement au chômage, donc si elles doivent quitter le couple, bon, ça va être très difficile pour elles. C'est des choses qui jouent également. Voilà.
Durant l'esclavage, on a aussi eu à éprouver la notion du couple volant. Le papa parti, l'homme jamais là.
Oui, c'est peut-être, ça explique peut-être aussi l'acceptation des femmes par rapport aux liaisons, enfin aux relations multiples des hommes, hein. Même si les femmes en souffrent, hein, bien entendu. Bon, quand on dit acceptation, c'est elles subissent les choses, hein, donc elles n'acceptent pas forcément de gaieté de cœur.
Union des femmes de la Martinique, bonjour. D'accord, je vais. Et elle est encore, elle est au téléphone. Je lui ai dit que vous aviez. Oui, parce que je lui ai passé le message et je lui ai dit de vous appeler. Donc,
c'est la première fois que vous venez à l'Union des femmes ?
Oui, c'est la deuxième fois.
Et pourquoi vous êtes venue aujourd'hui ?
Je viens pour qu'on puisse m'aider à propos de mon divorce. Et voilà, quoi, puisque j'entre dans une phase où je ne connais pas trop bien. On sait comment se marier, mais on ne sait pas comment divorcer. Donc ils sont là pour nous orienter, nous aider. Et vu qu'on attrape des problèmes avec le mari, puisqu'il n'est pas tout à fait... Bien des fois, ils ne sont pas contents de l'acte qu'on va prendre après, la décision qu'on va prendre. Et eux, ils sont là pour nous aider, à nous cadrer, pour savoir comment faire. Enfin,
comment votre mari a réagi à l'annonce du divorce ?
Vu déjà celui qui a tort, et ben, il est venu ici, on a dû appeler la sécurité parce qu'il n'avait pas réalisé que ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Le mois prochain, c'est notre anniversaire de mariage. Ça fait 4 ans. Il n'a pas cru que j'allais prendre cette décision et du coup, ça a été un choc pour lui.
Alors, qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 17 ans d'union, vous vous êtes dit c'est fini, j'arrête tout, je divorce ?
Eh ben, je l'ai surpris avec ma voisine. Au lit. C'était pas la première fois qu'il me trompait, ça faisait plusieurs fois, mais cette fois-ci j'ai été assez humiliée. Là, cette histoire a été vraiment loin parce que je me suis pas maîtrisée, j'ai dû frapper ma voisine. J'ai mes enfants qui passent dedans et c'est tout le quartier qui est sur notre dos, donc là j'ai dit stop, c'est bon, on arrête tout. Et voilà, ma dignité de femme a pris un coup, surtout je prends des médicaments, je suis devenue dépressive, je ne dors plus et j'ai quand même 4 enfants à gérer. Et là, je ne sais pas, il faut que ça cesse. J'ai trop donné. Et les hommes ont tendance à, avec même verbalement, arriver à réussir à détruire une femme. Même avec un regard, ils peuvent rabaisser une femme. Et nous, la femme, on est très sensible à ces choses-là.
Alors, vous dites que ce n'était pas la première fois qu'il vous trompait. Est-ce que vous en êtes ouvert à des proches, des parents, à votre mère ? Et d'ailleurs, quels ont été les conseils de votre maman ?
Alors, ma mère m'a toujours donné tort. Elle a toujours cru à mon mari. Parce que moi, je suis quand même assez quelqu'un d'impulsif. Là, il m'envoie un message. Je suis assez impulsif. Et elle a toujours cru à mon mari. Mais là, quand il s'agit de prendre des médicaments, de me voir pleurer et que je n'arrive pas à m'en sortir, elle m'a dit, prends une décision, agis, fais quelque chose. Et c'était la première fois qu'elle me disait ça. Parce que quand on voit mon mari, on dit, c'est un ange. Monsieur n'est pas, c'est un monsieur banal, quoi. Mais là, tout le monde d'ailleurs, on dit, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, pas lui. De plus, je faisais 95 kilos, j'ai perdu 38 kilos pour monsieur. J'ai dit que je me suis arrangée quand même. Après 17 ans quand même, il faut rénover la chose, quoi. Et puis voilà, et puis bam, ça tombe de coup, on se dit. Surtout que lui, il me dit qu'il n'a rien à me reprocher. J'arrive pas à comprendre. Je me sens sale, dégoûtée. Là, je pense qu'il faut quand même agir. La femme a tendance à peut-être des fois négliger son mari et tout, mais moi, je parle de mon cas. C'est vrai que je l'ai connu, j'avais 16 ans. De l'espace de 16 ans à 20 ans, j'étais une fille assez... je sortais et tout, machin et tout. Mais là, j'ai arrêté. J'ai pris mon rôle de femme, de mère au foyer. Et je me dis que peut-être que lui, je l'ai connu, il avait 18 ans. Je suis sa première vraie amie. Il avait envie d'un changement. Et puis vous savez, une jeune de 19 ans qui vient vers vous, vous vous dites que je suis un roi, quoi. Pourquoi moi, elle vient vers moi, bon, bien qu'il a son entreprise et tout. Elle vient parce qu'il y a l'argent derrière. Mais lui, l'homme, il se sent flatté. Il ne va jamais dire non.
Aline, vous nous avez dit, j'ai tout donné. Vous avez donné quoi exactement?
Catherine m'a posé la même question. J'ai donné ma vie, pratiquement la moitié de ma vie. 4 enfants, une personnalité. C'était... Moi, j'étais vraie, quoi. J'étais vraie. J'ai été vraie. Et tous ceux qui me connaissent le savent. J'ai été vraie.
Donc, vous avez eu l'avocate en ligne?
Oui, je l'ai eu.
Elle vous a donné rendez-vous quand?
Elle m'a pas donné de rendez-vous. Je lui ai simplement dit que le 28 mars... J'avais une convocation.
Oui.
Et elle m'a dit que, comme si elle ne pouvait pas m'assister.
Le rendez-vous au tribunal, c'est quand?
Le 28 mars.
Le 28 mars.
À 14h.
Premier étage de l'Union des femmes. Il y a 3 bureaux plantés à la queue-leu-leu. Nous sommes chez vous, dans votre bureau, Madame Néraud. Vous êtes écoutante. Vous recevez des femmes, les femmes qui viennent à vous. On peut s'asseoir?
Oui, je vous en prie. Je préfère plus le terme intervenante sociale qu'écoutante. Parce que nous n'écoutons pas seulement, nous accompagnons la femme dans sa problématique, dans sa reconstruction. Nous avons, je dirais, plusieurs casquettes. Parce que s'il est vrai que bon, la femme, quand elle arrive, nous sommes appelés à l'écouter, mais on lui donne quand même des leçons de la vie, l'orienter, bon, en fonction de sa problématique. Selon ses besoins psychologues. Si c'est une femme qui est restée très longtemps sans ne pas travailler, on peut quand même voir avec elle si elle veut faire une formation. Enfin, il y a, ça englobe toute la personne de la femme, mais que nous faisons avec elle. Pas pour elle, mais nous faisons avec elle. Voilà.
Quel type d'homme violent la société martiniquaise fabrique-t-elle?
Ben, l'homme qui sera très mature, hein, qui n'aura pas de respect pour la femme, qui va estimer que bon, mais il a le droit de faire ce qu'il a envie de faire et que la femme doit se taire. Et c'est l'homme qui aura, je dirais, une double casquette. L'homme, vous allez le rencontrer, il sera très jovial, il sera très serviable. Vous allez dire, mais c'est pas possible, il raconte des mensonges. Et c'est souvent dans ce panneau que beaucoup de femmes tombent.
Mais comment la société, quels sont les éléments de la société, les éléments culturels qui
font... C'est au niveau de l'éducation déjà des garçons et des filles qu'il ne faudrait pas faire ce genre de disparité. Je me dis de la même manière que je veux demander à ma fille d'aller laver la vaisselle, je dirais à mon fils également de laver la vaisselle. Il ne faut pas qu'il y ait ce genre de disparité, c'est ça.
Il y a en Martinique une étiquette qui traîne, qu'on colle aux hommes, le coq, l'image du coq antillais. Est-ce que ça perdure cette image-là?
Je dirais jusqu'à une certaine génération. Le coq antillais, ça voulait dire qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que il est dans une maison avec une femme, il peut sortir avec, etc., effectivement, de poule, je dirais, puisque si on parle de coq, de poule, et la poule qui est à l'intérieur, elle n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Il faut qu'elle ferme sa bouche. Peut, même si, effectivement, à la limite, il va faire des poussins ailleurs, celle qui est à l'intérieur, il faut qu'il... Mais je crois que ce discours est en train de changer, parce qu'il y a des lois maintenant qui sont mises en place, parce que, de la même manière que si j'ai des enfants qui sont de l'intérieur comme à l'extérieur, ils ont les mêmes droits par rapport au partage de biens, ainsi de suite. Et comme maintenant, on cherche les pères pour la pension alimentaire, maintenant, ils font très attention, ils font attention pour ne pas justement aller... Bon, il y a quand même une avancée.
J'étais maman à 17 ans, donc j'étais une enfant privée. Et quand on est mère au foyer à 17 ans, on dit ça y est, on est libre, on est chez soi, on fait ce qu'on veut. Mais c'est pas vrai. Je vais peut-être choquer certaines femmes en disant ça, mais j'étais une femme soumise. Soumise parce que je reconnais ma place de femme. Pas soumise, enfin bref, soumise en sachant qu'il y a un homme, c'est lui qui doit décider, puis on voit ensemble si on peut arranger les choses. Mais quand monsieur sortait du boulot, il avait son repas fait, son linge repassé, il n'avait rien à dire, tout était fait. Les enfants étaient propres, baignés, tout. Voilà quoi. Il n'y avait rien que... En fait, je voulais que mon foyer, dès qu'il sortait du boulot, c'était un havre de paix. Parce qu'il est tout le temps sur un engin, en train d'entendre du bruit. Et je voulais que dès qu'il entre chez lui, il voyait un changement. Mais ça n'a pas fonctionné apparemment.
Aline, comment se passait le rapport sexuel avec votre mari? Vous dites que vous lui avez tout donné.
Eh bien voilà, au niveau sexuel, je suis une fan de... Et il n'y a pas de problème à ce niveau-là, puisque j'aime faire l'amour avec mon mari. J'aime avoir des rapports avec mon mari. Dès la première fois, ça n'a jamais changé. Et on le faisait tout le temps. Il y avait Mireille qui me sauvait des rapports sexuels. Donc je vous dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je pense que ça peut être que du vice. Je ne sais pas. Quoique, je vais parler du malin aussi, de l'adversaire qui est derrière tout ça, mais bon. Des fois, on se laisse tenter. Et bien des fois, il y a Satan derrière tout ça. Parce que quand on a 4 enfants mariés, et comme dit la Bible, c'est dans la tribulation qu'on rencontre des problèmes. C'est dans le mariage qu'on rencontre des vrais problèmes. Parce qu'avant d'être mariée, je n'ai pas reconnu tous ces problèmes-là. Et brusquement, après... La voisine commence à le draguer et tout, des trucs qui se passent. Tu te dis, mais c'est pas possible, vaut mieux m'en pas t'émailler. Eh bien, voilà.
Vous auriez préféré être seule, ne pas être mariée?
Non, je suis pour le mariage. S'il le faut, je vais me remarier, je veux pas vivre dans le péché non plus.
Vous êtes allée voir cette rivale, cette femme qui a pris votre mari? Vous lui avez parlé?
Oui, je lui ai demandé à plusieurs reprises pourquoi. Elle m'a jamais répondu. Et ce que j'ai fait n'était pas bien, mais... J'ai eu un choc, je me suis pissée dessus, je suis tombée vers lui, mais après je l'ai frappée beaucoup. Et là, sa mère a pris sa défense, elle nous a frappés, moi et mes enfants, et là on doit paraître au palais de justice. Mais moi je n'avais rien demandé à personne pour mériter tout ça. Et là je me retrouve seule contre ces gens-là, et j'ai l'impression que c'est moi qui ai fauté en fait.
Aujourd'hui, quelle est votre image de l'homme?
Oh, l'homme... Ça ne me dérange pas, ça reste toujours un homme. Ils sont tous beaux, gentils, il y en a des gentils, des pas gentils. Je ne suis pas dégoûtée pour autant. Hein. Ça fait partie de la vie. C'était mon tour, c'est tout.
La rue piétonne entre midi et 11h et des femmes et des femmes et des femmes en lot de femmes qui passent. Guy.
Vestimentairement, je trouve ça. J'ai trouvé. Elles sont habillées un peu à la brésilienne avec des trucs très collés au corps. On dirait, j'ai rigolé, on dirait un champ de canne avec tous ces sillons. Bon, on est dans un pays chaud, je pense qu'on devrait avoir des vêtements assez larges, où on peut quand même être bien ventilé en dessous, par exemple. Mais c'est pas toujours le cas, quoi. Vous avez toujours la même chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de string, beaucoup de vêtements très fantaisistes.
Avec
des trous, oui, avec des trous. Des trous un peu partout et tout. On a l'impression qu'on est même pas habillé quand on porte ça, quoi. Parce qu'il y a plus de peau dehors que de vêtements sur la peau. Mais bon. Mais c'est vrai que quand vous baladez dans des rues, dans quelque part, et que vous voyez comment elles sont habillées, ces femmes, comment elles sont jolies, comment. Il y en a aussi qui sont moins jolies, mais comment en majorité elles sont jolies. Je pense qu'il y a de quoi vous dévier, vous rendre presque fou, je dirais.
Ben, le Martiniquais, il aime bien regarder, il aurait bien aimé faire plus que regarder. Donc, tout est moyen pour accéder à ses désirs. Donc, il aura toujours... voilà, quoi. C'est, comme on dit vulgairement, c'est le petit maco, quoi. Donc...
Alors, le macro, c'est quoi? Là, vous nous parlez du macro, mais c'est quoi? C'est celui... Ça s'habille comment? Ça parle comment?
C'est celui qui a le regard, justement, dont on ne veut pas. C'est celui qui oublie qu'en face de lui, il n'a pas un bout de chair, mais il a une femme avec des désirs de femme, des attentes de femme venant de celui qui est en face. Et non pas simplement baisse-toi, assieds-toi, couche-toi, etc. Simplement un homme qui nous considère en tant que femme.
Moi, qui n'ai que 25 ans, la seule chose qu'on peut voir en moi, c'est la petite jeunette et le bout de viande.
Moi, je veux qu'un homme me regarde, que le regard qu'il pose sur moi soit toujours un regard qu'il pose sur une femme. Une femme qu'il trouve agréable à regarder, désirable, oui, mais pas comme un objet, un appât, non, pas comme une chair... que l'on peut s'approprier, ou etc. Il peut me dévisager, il y a une façon de dévisager qui peut être très agréable et délicate. Maintenant, non, le regard persistant, trop insistant, et avec des yeux, en fait, tout se lit dans le regard, en fin de compte. Tout se lit dans le regard, et ce regard-là chez l'homme est assez dérangeant. Et très dérangeant, pas assez, il est dérangeant.
1h du mat, je fais mon repérage. Je guette, je traque celle qui aura le swag. En mode soigné, je sais, j'ai pour insérer. Je pose mon verre pour. J'ai tout prévu pour rentrer accompagné. Raser de près le dernier parfum Dolce. DJ, soubis son pistage à Kenta. Mon choix se porte sur.
Dernièrement, il y avait une jeune étudiante anglaise qui me disait, mais bon, je suis assez effarée de voir comment les femmes, les jeunes filles s'habillent, mais aussi de la sexualité ambiante, quoi. C'est-à-dire que les hommes font des remarques dans la rue, etc. Et bon, quand on y est, on est interpellé par ça, mais peut-être pas autant que quand on vient de l'extérieur. C'est vrai que c'est très fort, c'est très prononcé ici. Alors, est-ce que les femmes sont partie prenante? Ben, je dirais, comme partout ailleurs, bon, elles sont, oui, ce sont elles qui posent pour les publicités, ce sont elles qui s'habillent comme ça, etc. Mais tout simplement parce qu'elles sont dans cette société et que, qu'on le veuille ou pas, comme les femmes qui sont dominées et qui ne disent rien, etc., ben, elles participent à la perpétuation de la chose parce qu'elles ont intégré elles-mêmes ces notions-là. Donc, la question n'est pas de savoir si elles sont, enfin, de leur jeter la pierre en leur disant bon c'est vous, c'est de votre faute, mais de réfléchir au fonctionnement de cette société machiste et à ce phénomène d'hypersexualisation qui est, qu'on le veuille ou pas, aussi bien certainement commandité par les hommes, mais il faut qu'on y travaille.
Alors Rita Bonheur, dans l'espace public, jusqu'où peut aller un homme dans son jeu de la séduction? Qu'est-ce qui est permis de faire pour un homme? Et pas permis pour une femme, d'ailleurs.
Oh, ici, les hommes s'octroient, des actes très, très libres. Hein. C'est-à-dire, bon, ils interpellent avec des termes sexuels très forts. Ils peuvent aussi injurier si on répond, hein, si on n'est pas d'accord. Enfin, je veux dire, on peut se faire invectiver très fortement si on a osé répondre en tant que femme. D'ailleurs, en général, la façon de réagir des femmes est de faire comme si elles n'ont pas entendu. Mais on est atteinte quand même, hein, malheureusement, bon, dans son intégrité. Et c'est une violence sexuelle. Et ça, malheureusement, je dirais à tout âge. Parce que vous avez des hommes de 50-60 ans qui se permettent d'interpeller des gamines de 12, 13, 14 ans, bon, ce qui est quand même très choquant. De la même façon que vous avez des jeunes garçons qui se permettent aussi d'interpeller des femmes qui sont plus âgées qu'eux. Voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas cette retenue, on va dire, ni qui est liée à l'âge, ni qui est liée au public.
Quand on zaille, quand on drague une femme, on fait psss. On en entend des milliards de psss dans la journée.
Oui, ça se fait encore beaucoup. Moi, je conseille aux femmes de réagir et pas de faire comme si elles n'ont pas entendu. Parce qu'en général, ça ne s'arrête pas. Quand on fait comme si on n'a pas entendu, ça ne s'arrête pas. Donc, il vaut mieux réagir. Bon, on n'est pas obligé d'être violente à son tour, mais on peut, bon, voilà, on peut signifier que non. Après, l'homme qui continue, il transgresse un non. Mais si on n'a rien dit, on peut toujours dire, bon, ben finalement, bon, c'est peut-être qu'elle était d'accord si elle n'a rien dit, donc on peut continuer. Ça l'autorise encore davantage à continuer. Alors, comment on peut faire? Ben, c'est vrai que nous, on n'a pas les moyens ni, je dirais, c'est pas notre choix non plus d'aller derrière chaque homme pour lui asséner un coup de bâton dès qu'il fait quelque chose de pas bien. Mais je crois que c'est la prévention et la sensibilisation qui doivent permettre de changer les comportements. Donc voilà, c'est une façon aussi de faire arrêter les choses. Et il faut que cette société, notre société, puisse changer, puisse évoluer pour un mieux-être à la fois des hommes et des femmes.
C'était Martinique, des petits morceaux de femmes.
Merci à Maëva, Maryse, Guy, Monique Parfaite, Rita Bonheur, Madame Néraud, Aline et Mylène.
Prise de son à Paris, Ariane Herbé. Attachée d'émission, Christine Gage et Félix Courty.
Un documentaire de François Teste, Véronique et Fabienne Canor pour Sur les docks.
Connais-tu le charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le Montpellier et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de tartane, et les touristes aux seins nus à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Mona et Thierry-Émile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum, la tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines? Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent? Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole, et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine, à se trémousser sur un tube de zouk machine? Sais-tu que là-bas les petits garçons jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs? Et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe.
Merci pour votre écoute. Vous pouvez nous écrire sur le site de l'heure du documentaire. Demain, nous continuerons ce parcours dans le monde féminin en partageant l'univers de la première des premières, Madame Pompidou. Avant le journal de la rédaction à 17h, c'est le temps de la musique.